des femmes écrivains. Une chronique de Jean Mauduit sur Canal Academy.
Jean Mauduit, bonjour.
Bonjour.
Vous revenez au studio de Canal Academy pour tenir votre chronique sur les femmes écrivains. Jean Mauduit, de quel livre est-ce que vous nous parlez aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, j'ai pris la décision de vous présenter un grand roman d'amour intitulé « La femme de l'Allemand » de Marie Cizin aux éditions Arléa.
C'est encore possible aujourd'hui d'écrire des grands romans d'amour ?
Ce serait possible, mais en réalité, je viens de vous égarer malignement. Ah. Il s'agit de la passion qui unit une fille prénommée Marion à sa mère qui s'appelle Fanny, une passion qui les rapproche et qui les déchire et même les désunit. C'est l'amour mère-fille, souvent évoqué, mais qui ici est regardé sous un aspect tout à fait particulier.
Alors pourquoi le titre « La femme de l'Allemand » si l'histoire d'amour est en train de...
C'est un titre un peu décalé. Le thème du vilain Allemand qui a fait un enfant à une gentille Française sous l'occupation commence à être un peu usé, j'en conviens. Nous l'avons d'ailleurs évoqué au cours d'une émission précédente à propos d'une autre œuvre. En réalité, ici, on voit bien la femme, qui est justement cette Fanny, la mère de Marion, mais on ne voit pas l'Allemand. L'Allemand n'apparaît que dans la représentation que va s'en faire la petite fille, devenue ensuite une jeune fille. D'ailleurs, on ne sait pas s'il est mort ou vivant. En réalité, c'est l'Arlésienne.
Alors, dans quel ordre est-ce que le récit est raconté ?
Oui.
Est-ce qu'on commence par l'enfance de la fille, par la mère ?
Oui. Alors, vous avez raison, il faut remettre de l'ordre dans tout ça, c'est pas évident. Dans le roman lui-même, la vérité ne se dévoile que peu à peu. En fait, on la découvre qu'à travers le vécu d'une petite fille, qui est donc la fille de l'Allemand, ou du moins à qui sa mère dit qu'elle est la fille de l'Allemand, c'est sans doute vrai. Cette petite fille qui peu à peu grandit, deviendra une adolescente, puis une jeune fille, à travers son vécu. Et le roman, en effet, a une espèce de clair-obscur qui me paraît à moi une dimension positive. Les romans trop clairs où tout est baigné dans une espèce de lumière froide ne m'intéressent pas beaucoup. Ici, on est en proie, aux prises avec, je dirais, le mystère de la vie. Parce que nous avons toujours l'impression que la vie est une espèce de représentation où tous les rôles sont affectés d'avance, la distribution est connue, le metteur en scène est supposé. C'est pas comme ça dans la conscience d'un être que les choses se passent. Son vécu est fait d'impressions, de sensations, de peurs. L'être en question, sauf s'il s'auto-analyse en permanence, ne fait pas le décryptage. Eh bien, l'écrivain ici ne le fait pas non plus. Il ne nous laisse apparaître la vérité que peu à peu. Alors, pour faire la synthèse, ça se passe à Paris, ça se passe rue Saint-Antoine, près de l'église Saint-Paul, au 4e étage d'un immeuble modeste. Habite là une femme et sa fille, Fanny, c'est la maman, qui a derrière elle déjà, et ça on va le découvrir assez vite, un lourd passé médical. Elle était amoureuse d'un Allemand pendant l'occupation, elle est tombée enceinte, puis elle est tombée malade quand il est parti avec les autres en 1944. On a dû l'hospitaliser et la soigner, d'où le motif que le bébé allait naître et qu'elle était malade, on saura plus tard de quelle maladie il s'agit. Puis sa fille est née et tout semblait redevenir normal. Mais elle a fait 2 ans plus tard une rechute épouvantable et il a fallu recourir aux électrochocs pour la ramener sur Terre. Et tout le récit va être cadencé, en quelque sorte rythmé, par les allers-retours de Fanny entre l'hôpital et la maison, entre l'hôpital et la vie, entre ce monde parallèle qu'est l'hôpital et le vrai monde, avant que ce soit le contraire. Elle est, pour tout dire, maniaco-dépressive, une affection redoutable, qui est caractérisée, vous le savez sans doute, par une alternance de périodes où la malade semble tout à fait revenue à sa normalité, parfaitement guérie, et puis, sans prévenir, des accès d'une violence insoutenable.
Comment qualifier cet amour qui relie la mère à la fille ?
C'est une bonne question, et la réponse n'est pas facile. Pour aller vite, je pourrais dire que c'est un amour impossible, et qui, de ce qui est impossible, s'exalte. En réalité, cette petite fille ne demande qu'à aimer sa mère, et noue avec elle des liens de profonde tendresse, et réciproquement, jusqu'au moment où la mère, sous le coup de cette terrible maladie, devient une autre. Et cette petite fille, pleine d'amour, se trouve aux prises en face d'une étrangère, qui parle d'une voix d'homme, dans ses crises, une drôle de voix épaisse, rugueuse, et qui se livre à toutes sortes de facéties, on pourrait dire, s'il ne s'agissait pas de quelque chose aussi tragique. Je précise que ça n'est jamais vu sous l'angle médical, ce qui enleverait beaucoup d'épaisseur au roman. Il n'y a pas de médecine là-dedans. Il y a les hauts et les bas que traverse justement Marion, qui connaît avec sa mère des plages d'amour tendre, de vie tranquille. Puis tout d'un coup, Fanny devient une autre. Une femme hors d'elle-même, avec cette grosse voix étrange. Une femme qui, elle, s'y soignait jusqu'alors, s'habille en haillon, qui se barbouille le visage de rouge à lèvres, qui un jour va s'exhiber toute nue à la fenêtre de l'appartement pour crier son désespoir aux passants, et qui va finir par épouvanter sa fille. C'est bien que Marion, en quelque sorte, de force, évacuait de l'amour qu'elle portait à sa mère. C'est ça, la maladie. C'est quand le malade qu'on aime devient un autre. Est-ce qu'on est capable de l'accompagner, cet autre, là où il va ? La réponse est non pour la petite fille. Elle va se sauver, en quelque sorte, parce qu'elle finira par sortir de sa mère. En tout cas, elle ne la suivra pas dans la folie.
Est-ce que ce n'est pas aussi une représentation un peu extrême d'une relation entre un enfant et la mère qui forcément est double ? Il y a la mère bonne et la mère méchante, la mère reine et la mère sorcière.
La femme noire de Jung, oui, la femme noire et la femme blanche, oui. Oui, c'est vrai, les relations mère-fille, pour ce que j'en ai connu, sont toujours un peu chaotiques. Mais là, on est vraiment avec ce mur incompréhensible de la folie, parce que la mère, dans ses accès, devient méchante. Cruelle, d'ailleurs, elles se battront, pas pour le plaisir de se battre, si j'ose dire, mais parce que la mère, qui est devenue folle, a allumé un feu pour incendier les bouquins de sa fille.
Donc le livre est centré, si je comprends bien, sur la fille et sur son point de vue, donc plus qu'un roman d'amour, c'est un roman de solitude, où les deux vont ensemble.
C'est un roman de solitude dans tous les sens du mot. D'abord l'enfermement de deux consciences qui voudraient bien communiquer, mais que sépare ce mur de la folie, ce mur incompréhensible. En ajoutant tout de même que vers la fin, la fille, à mesure qu'elle s'éloigne de la mère, en même temps change de rôle. C'est la mère qui devient la fille et la fille qui devient la mère.
Est-ce que la fille arrive à échapper à la folie ?
Oui. D'autant qu'il y a aussi la famille, c'est-à-dire les parents de Fanny, les parents de la malade, sa mère qui s'appelle Maude, son père qui s'appelle Henri, et que par snobisme se font appeler tante Maude et oncle Henri, sont de grands bourgeois, on l'a deviné, qui habitent rue de Suchraine à Paris. Et dans cette espèce de tragédie, en fait, que raconte l'auteur, ils tiennent le rôle du cœur antique, un cœur qui ne se contente pas d'ailleurs de réciter. Il déplore, il critique, mais il agit. Et ses grands-parents, donc, profitent de toutes les absences de Fanny lorsqu'elle est hospitalisée pour récupérer la petite fille chez eux et la ramener pour la réinsérer dans un monde estimé normal par eux, c'est-à-dire un monde de préjugés assez étouffant de non-dits, un monde encadré de le rituel de politesse, rituel comme il faut.
Est-ce que la fille arrive à choisir entre ces deux mondes ? Qui est-ce qui gagne finalement ?
Alors ça, je ne vous le dirai pas parce que la vie est pleine de surprises. Et parce que c'est aux auditeurs de décider si nous sommes, comme je l'ai annoncé, ou en tout cas laissé paraître, dans une tragédie où la mort annoncée fait son œuvre, inexorable, ou bien dans une tragicomédie qui, au dernier moment, se retourne avec une fin paisible. Non, je me contenterai de dire que le récit est d'une grande rigueur et que, d'une certaine façon, oui, la fille choisira, mais peut-être pas ce qu'on imagine.
Comment est le style de Marie ici ?
Alors, je l'évoquais tout à l'heure, c'est une écriture singulière. C'est un style serré, c'est un style transparent, il n'y a pas de grands effets de plume. L'auteur préfère nettement la litote, elle préfère le silence plutôt que les cris. Ce qui est étrange, c'est que le récit, à l'exception des dernières lignes, quatre dernières lignes qui vont être vouées au père, à l'allemand, et écrites à la troisième personne, tout le reste est à la deuxième personne, le « tu ». Au présent d'indicatif et le tu.
Oui. Mais qui s'adresse ce tu ?
C'est surtout qui est ce tu ? Alors ça pourrait être d'ailleurs fastidieux, c'est en effet un procédé, je trouve que ça marche. Ça marche parce que c'est fort. Alors à qui s'adresse ce tu ? Ça c'est clair, à Marion. Mais qui est le tu ? Alors c'est peut-être Marion elle-même, dans un discours d'auto-analyse, un discours ininterrompu avec sa propre conscience, c'est peut-être l'auteur. En posture d'omniprésence, vous connaissez le bouquin célèbre, l'interrogation célèbre, le romancier est-il un dieu pour ses personnages ? Ou alors c'est un récitant anonyme, une sœur, un frère ? On ne sait pas. Et ça participe de cette espèce de flou, au bon sens du mot, que j'évoquais précédemment. L'essentiel, c'est la qualité de ce roman qui est plein de violence, retenue et surtout d'une grande pudeur et qui pose quand même un problème auquel personne ne peut échapper à notre époque, c'est le rapport que nous entretenons ou qu'entretient la société avec des maladies comme l'Alzheimer ou la folie ou la dépression maniaco-dépressive, des maladies qui dépossèdent l'individu de sa conscience. Ces maladies-là ont longtemps été gommées par la société. On disait de quelqu'un qu'il était étrange ou gâteux, pour dissimuler ce qu'on appellerait aujourd'hui justement une dépression ou un Alzheimer. Et on se débarrassait des personnes qui, à travers leur maladie, posaient question à la société en les enfermant. Au Moyen-Âge, on les laissait au contraire libres, on les entourait d'une certaine tendresse. Aujourd'hui, ces maladies figurent parmi les objectifs sociaux de tout gouvernement. Comment lutter contre ces maladies, notamment l'Alzheimer ? Bon, c'est un problème vieux comme le monde, et on peut constater que sa dimension individuelle et collective s'est aggravée à mesure même de la prise de conscience, à mesure que nous mesurons la gravité de tout ça. Mais ce n'est jamais qu'un débat de plus entre l'homme et sa conscience.
Est-ce que vous voudriez bien nous lire un passage de ce livre, Jean
Maudit ? Oui, j'ai choisi sadiquement le plus dramatique. Les choses vont en effet changer, rue Saint-Dominique, tout à coup. Tu dois avoir alors presque 7 ans, puisque tu vas à l'école pour la deuxième année. Tu es presque grande. Depuis quelques jours, tu trouves que Fanny est bizarre, qu'elle parle beaucoup, beaucoup trop haut. Tu as aussi remarqué qu'elle dort mal. Elle se lève la nuit, allume la lumière, marche à travers vos deux pièces, range interminablement des papiers. Une fois, tu l'entends même chantonner, murmurer des choses que tu ne comprends pas. Mais tu te rendors. Et le lendemain, tu n'y penses plus. Pourtant, une nuit, tu es réveillé par un grand bruit d'eau venant de la cuisine, celui du robinet de l'évier coulant à flots dans un récipient métallique. On n'entend que cela dans le silence de l'immeuble endormi. Tu te lèves dans le noir, de la lumière filtre sous la porte, c'est allumé dans la pièce voisine. Tu trouves Fanny debout devant l'évier, en peignoir, occupée à laver du linge dans une bassine de zinc, si absorbée qu'elle ne t'a même pas vu entrer. L'eau fait un tel bruit et la laisse couler et déborder comme à plaisir qu'elle ne t'a pas non plus entendu. D'ailleurs, elle chantait à mi-voix. Quand elle s'aperçoit de ta présence, elle sursaute et s'arrête net. Elle te regarde bizarrement, immobile. Toi, étonné, tu ne bouges pas non plus, tu restes là dans l'encadrement de la porte. Alors elle t'ordonne durement d'aller te coucher, elle qui ne te parle jamais comme ça. Elle a une voix toute changée, une voix inconnue, rogue, masculine, une voix qui semble sortir d'une autre personne. Tu as peur, tu files, tu vas vite te remettre dans ton lit. Et alors là, de l'abri des couvertures, tu l'entends qui se remet à chanter, mais très fort cette fois, de cette voix terrible, de cette voix étrangère, inconnue. Elle enchaîne une chanson après l'autre, sans s'arrêter, comme une mécanique. Tu les connais toutes, ces chansons, elles te sont familières. Ce sont celles que vous entendez à la radio, les feuilles mortes, par exemple, ou les chansons d'Édith Piaf, qu'elle aime tant, mais elle les chante autrement et elles deviennent effrayantes, comme ces comptines d'enfants qu'elle intercale dans son récital et qui sont rendues terribles par la violence qu'elle leur donne, la manière dont elle articule certains mots qui prennent alors un autre sens, nouveau, menaçant, bizarre, terrible. Louis-tu ? Entends-tu ? Tu as peur. Tu as peur des mots. Peur de cette voix. Peur du mystère. Peur de l'ailleurs qui est là, en Fanny, autour d'elle. Ce qui est surtout impressionnant, c'est cette façon d'enchaîner un air après l'autre, sans désemparer, comme une machine que rien ne pourrait épuiser, une machine emballée, une machine folle. Longtemps tu écoutes comme paralysé, et puis tu finis par t'endormir dans le bruit de l'eau folle qui n'a pas cessé de couler, mêlée bizarrement au chant inquiétant.
Merci Jean Maudit. Est-ce que vous pouvez rappeler le titre et les références exactes de ce livre ?
La femme de l'Allemand, par Marie Cizin, aux éditions Arléa.
J'invite tous les auditeurs à écouter vos autres chroniques consacrées aux femmes écrivains, notamment Marguerite Yourcenar, Amélie Nothomb, Simone de Beauvoir, Madame de Lafayette et beaucoup d'autres. Oui. Oui, merci à vous, Jean.
Merci
à bientôt.
À vous.